Les éclaireuses ont 100 ans.
Dans cette chronique, on balaye le siècle écoulé depuis la naissance des éclaireuses pour faire un focus sur des thématiques et quelques figures de femmes. Aujourd'hui, la lutte pour le droit à l'avortement. On résume parfois la légalisation de l'avortement au vote de la loi portée par Simone Veil en 1974-1975. En fait, comme toutes les victoires sociales, c'est le résultat d'une longue lutte. En l'occurrence, une lutte menée sur plusieurs fronts, juridiques, médiatiques, mais aussi avec des actions de désobéissance civile. Pour situer le contexte, depuis 1920, il y a une loi qui interdit en France l'avortement et ce qu'on appelle la propagande anticonceptionnelle, c'est-à-dire globalement le fait de parler de contraception. C'est interdit. Donc toute pratique et information sur la contraception et l'avortement sont interdits, punis de prison. Alors pendant ce temps-là, comment faisaient les femmes? Évidemment, en fait, elles avortaient quand même. C'est pas parce que c'était interdit qu'elles le faisaient pas, simplement c'était des avortements clandestins avec toutes sortes de procédés différents qui étaient particulièrement dangereux, ce qui amenait globalement pas mal de femmes à l'hôpital en urgence dans des situations... À côté de ça, il y avait des avorteuses qui manipulaient de manière un peu plus expérimentée des sondes pour avorter des femmes de manière clandestine. Évidemment, comme c'était une pratique officieuse, interdite, illégale, c'est difficile de savoir combien de personnes ça concernait, mais globalement, il y a des statistiques qui estiment qu'en 1956, donc quand même 10 ans après la guerre, on évalue à 800 000 le nombre d'avortements en France chaque année, d'avortements clandestins. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, en France, on est autour de 230 000 avortements chaque année. Et à l'époque, donc 800 000 et autour de 10 000 le nombre de morts consécutives à des avortements clandestins. Alors donc cette première période-là, c'est celle des avortements clandestins, c'est-à-dire avant la légalisation. Et là, on a le profil d'une éclaireuse qui s'appelle Eliette Bess, qui a pratiqué des avortements clandestins pour autrui. Donc Eliette Bess, elle est née en 1930, avant la guerre. Elle a été éclaireuse israélite au sein de la Fédération française des éclaireuses. Donc après l'arrestation et la déportation de son père, qui était juif, elle déménage et elle continue le scoutisme, mais là, elle devient éclaireuse neutre, puisqu'évidemment, le scoutisme israélite devient interdit. Donc elle est éclaireuse neutre, elle devient ensuite cheftaine de louveteaux à la fin de la guerre. Et puis après ça, elle s'engage dans des mouvements indépendants des auberges de jeunesse et elle s'implique progressivement dans différents groupes et collectifs anarchistes. C'est sur cette période-là, entre 1950 et 1970, donc pendant plus de 20 ans, qu'elle apprend à pratiquer des avortements et qu'elle avorte d'autres femmes. Elle s'arrête dans les années 70 quand arrive un cadre collectif pour pratiquer des avortements clandestins dont on va reparler après et qui s'appelle le MLAC. Juste pour finir sur Eliette Bess, donc elle est un peu connue aussi parce que plus tard, dans les années 80, elle fera partie du groupe terroriste Action Directe, où elle a des missions logistiques et d'agent de liaison. Elle fera de la prison pour ça plusieurs années. Et elle est toujours vivante d'ailleurs. Elle tient une librairie à Paris qui s'appelle Le Jargon Libre. Donc, revenons à la lutte pour l'avortement, le MLAC. Le MLAC, c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. C'est une association qui est créée en 1973. Ça regroupe des militants de plusieurs structures différentes qui existent à l'époque, mais qui a comme particularité de se donner comme principal moyen d'action le fait de pratiquer des avortements clandestins au grand jour, c'est-à-dire ouvertement, de ne pas se cacher, alors que c'est illégal et que ça vaut encore des peines de prison, avec l'idée que si on pratique publiquement des avortements, on va finir par forcer la loi à changer. C'est facilité par l'introduction en France de ce qu'on appelle la méthode Karman. La méthode Karman, on l'appelle aussi la méthode par aspiration. À partir de 1972, elle arrive en France et c'est une technique qui consiste à aspirer le contenu de l'utérus, qui est encore une technique qui est utilisée aujourd'hui, et qui est une technique qui est beaucoup plus facile et sécurisante que les techniques avec des aiguilles à tricoter ou des sondes qu'il y avait avant. Et du coup, ça permet beaucoup plus facilement à des non-médecins, donc à des personnes qui sont instites, enseignantes, militantes, etc., de pratiquer des avortements à domicile. Le MLAC, il organise aussi des départs publics pour les Pays-Bas. Ils organisent des grands bus dans des grandes places à Paris. Et à l'été 1974, il organise même un Tour de France dans une caravane. Donc c'est vraiment une stratégie de publicisation de l'avortement clandestin pour faire changer la loi. Une des grandes figures du MLAC, c'est Simone If. Alors Simone If, c'est aussi une éclaireuse. Elle était éclaireuse unioniste vers Vabre, donc dans le Tarn, pas très loin d'ici. Et elle entre au planning familial et elle commence comme hôtesse d'accueil, sachant qu'à l'époque, le planning, à ce moment-là, défend la contraception, mais plutôt est contre l'avortement. Mais en fait, elle va participer en interne à une sorte de fronde des hôtesses d'accueil qui vont finir par prendre le pouvoir dans l'association. Et ça devient la première présidente du mouvement du planning familial à ne pas être un médecin. Simone Yves, elle est au planning familial et en fait, comme le planning familial est contre l'avortement, elle, elle veut faire changer la position du planning familial et donc elle s'implique dans le MLAC, elle est vice-présidente du MLAC et elle va en parallèle contribuer à l'élaboration et à la création du manifeste des 343. Le manifeste des 343, vous en avez sans doute entendu parler sous un autre nom qui est le manifeste des 343 salopes. Alors en fait, ce n'est pas son réel nom. 343 salopes, ça a été rajouté par le journal Charlie Hebdo. Donc le manifeste des 343, c'est plutôt le volet médiatique de la lutte. En fait, c'est une pétition qui est parue en avril 71 dans le Nouvel Obs, où il y a 343 femmes qui appellent à la légalisation de l'avortement en disant « je me suis fait avorter ». Donc parmi ces 343 signataires, on compte au moins deux anciennes éclaireuses. La première, c'est Agnès Varda. Alors Agnès Varda, c'est une cinéaste emblématique de la Nouvelle Vague. Elle, elle était éclaireuse unioniste aussi vers 7. Et elle réalise d'ailleurs plusieurs films féministes comme le film L'une chante et l'autre pas, qui est justement sur le droit à l'avortement. Elle a aussi prêté sa maison pour des avortements clandestins. Donc ça, c'est Agnès Varda. La deuxième signataire dont on sait qu'elle a été éclaireuse, c'est Marceline Loridan-Ivins. Donc elle, elle est aussi cinéaste, elle est aussi actrice et elle réalise des films. Elle est d'une famille juive immigrée en France un peu avant la guerre. Elle a été petite zèle, donc on dirait Louvette aujourd'hui, à la FFE, mais on ne sait pas dans quelle section. Elle est déportée à Auschwitz comme juive pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est là notamment qu'elle rencontre Simone Veil. En fait, elles sont compagnes de déportation et elles sont toutes les deux rescapées du camp d'extermination d'Auschwitz. Elle, son œuvre de cinéaste, pour vous situer un petit peu, elle s'intéresse vraiment à la question des peuples en lutte. Donc, par exemple, elle va filmer les Algériens et les Algériennes après l'indépendance. Elle va filmer la guerre du Vietnam du côté des Vietnamiens et des Vietnamiennes. Donc toutes ces deux femmes-là, Agnès Varda et Marceline Loridan-Ivins, elles sont signataires de ce manifeste des 343. Donc toutes ces actions militantes combinées, elle crée en fait une situation intenable dans les années 70 pour le gouvernement. Et le gouvernement finit par avoir pas d'autre choix que d'envisager la légalisation de l'IVG, ce qui nous amène pour le coup à Simone Veil. Simone Veil, elle aussi, elle est éclaireuse. Donc elle était éclaireuse neutre, donc laïque. Sa famille, elle est juive, ils vivent à Nice. Tous ses frères et sœurs font du scoutisme. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, elle est déportée à Auschwitz, elle en revient. Après la guerre, elle devient magistrate. Et en 1974, elle est nommée ministre de la Santé dans le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. Quand elle arrive, on lui explique que la situation est telle que si ça continue, c'est probable que le MLAC finisse par organiser un avortement dans son bureau ministériel. C'est-à-dire que l'État doit réagir parce que la loi est trop transgressée et trop ouvertement. Donc Valéry Giscard d'Estaing la charge de porter cette loi de légalisation de l'IVG, qui en fait est une loi pour rétablir l'ordre républicain. D'ailleurs, elle-même, elle a une position qui est très nuancée sur l'avortement, et elle dit « notre loi n'interdit plus l'avortement, mais elle ne crée aucun droit à l'avortement ». Donc on est un peu éloigné de positions féministes militantes. D'ailleurs, la loi de Simone Veil autorise l'avortement pour 5 ans seulement, et donc ça a été prolongé ensuite, et à ce moment-là, l'avortement est non remboursé par la Sécurité sociale, ça n'arrivera que plus tard, en 1982. Ce qu'il faut retenir de tout ça, en tout cas à mon avis, c'est que les droits sociaux, ça se conquiert, on se bat pour, et que s'il a fallu à Simone Veil beaucoup de courage et de dignité pour défendre la loi qui légalise l'IVG en France, c'est pas à elle qu'on doit le droit à l'avortement, ni à Valéry Giscard d'Estaing, on le doit aux militants et aux militantes qui se sont battus, chacune avec leur technique, pendant des années avant ça.